8h sur France Culture. Bienvenue, si vous nous rejoignez, voici le journal d'Amélie Perrier. Bonjour Amélie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. C'est le rendez-vous tant attendu pour enfin entrer dans la campagne. Les 5 candidats en tête se retrouvent pour un débat inédit ce soir où chacun va tenter de faire basculer un scrutin où rien n'est encore joué.
Terroriste et djihadiste ou voyou perdu et drogué, l'assaillant d'Orly était ivre et avait pris de la cocaïne. Son autopsie renforce des interrogations autour de son profil et de ses motivations.
La France s'entraîne pour résister à une cyberattaque, exercice de très grande ampleur à partir d'aujourd'hui avec la participation de 240 étudiants spécialisés, un moyen de former nos futurs experts en cyberdéfense.
L'espionnage, justement au cœur des auditions aujourd'hui aux États-Unis des patrons du FBI et de la NSA, ils doivent dire si la Russie a tenté de favoriser Trump lors de la dernière présidentielle, mais également si le milliardaire a été mis sur écoute, comme il l'affirme, par l'administration Obama.
Et nous irons dans ce journal enfin en Irak, où les habitants fuient les combats à Mossoul. Les ONG qui les recueillent se retrouvent débordées. Des programmes, des idées, une campagne enfin lancée, on l'espère ce soir, lors du premier débat télé entre les 5 têtes d'affiche de la présidentielle. TF1 invite à partir de 21h les Fillon, Hamon, Le Pen, Macron et Mélenchon pour les confronter autour de 3 thématiques. Le modèle de société, le modèle économique et la place de la France dans le monde. Une émission inédite sous la 5e République dont on attend beaucoup tant le scrutin reste imprévisible jusqu'à présent, Stéphane Robert.
Sur la ligne de départ, on a 2 favoris pour cette élection. Marine Le Pen, qui depuis des mois enregistre systématiquement plus de 25% d'intention de vote dans les enquêtes d'opinion et dont les électeurs se disent sûrs de voter pour elle à près de 80%, raison pour laquelle elle peut envisager avec optimisme l'accession au second tour. Second favori, Emmanuel Macron, qui ne cesse de grimper dans les intentions de vote. Il est quasiment au même niveau que la candidate du Front National. Mais à cette différence que près de 50% de ses électeurs potentiels se disent encore indécis, pas tout à fait sûr de voter pour lui. Et c'est là que se situe pour Macron une importante marge d'incertitude qui fait que les débats télévisés, en particulier celui de ce soir, s'annoncent déterminants. Soit il arrive à s'affirmer, à s'imposer, à incarner une stature présidentielle et il pourrait vite convaincre tous ces indécis et confirmer l'avantage que lui accordent les sondages. Soit il apparaît décalé, pas vraiment convaincant, à l'image de Bruno Le Maire lors des débats qui ont précédé la primaire à droite. Et du coup, ça pourrait lui être vraiment préjudiciable. En tout cas, Macron joue gros sur ses débats télévisés. Et celui qui pourrait bénéficier de ses éventuels déboires, c'est François Fillon. Il a considérablement pâti de l'affaire Pénélope Fillon et de sa récente mise en examen. Mais il conserve un socle important de potentiels électeurs à droite qui ont le sentiment qu'on essaie de leur voler l'élection. Et puis Fillon a montré qu'il était plutôt à son aise dans les débats télévisés. Quant aux 2 autres prétendants, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, pour le moment, ils semblent se neutraliser et montrer que la gauche est trop divisée pour espérer l'emporter. En tout cas, l'un ou l'autre devra se montrer particulièrement pugnace pour envisager inverser la tendance.
Voilà pour les 5 gros. Pour les 6 plus petits candidats, entre guillemets, pas de débat. Frédéric Saïs en parlera dans son billet politique après ce journal. Le Conseil d'État a débouté Nicolas Dupont-Aignan la semaine dernière, qui réclamait une égalité de traitement entre tous les qualifiés pour le premier tour de la présidentielle. Le souverainiste a d'ailleurs marqué sa désapprobation samedi soir en quittant en direct le plateau du 20h de TF1. Pourtant, le CSA a renforcé les règles cette année pour garantir l'exposition médiatique la plus équilibrée possible. Depuis le 1er février, nous étions dans la période dite d'équité. Nous passons maintenant à l'équité renforcée. Explication avec Alexandra Hakoun.
L'équité, c'est offrir à chaque candidat une exposition médiatique proportionnelle à son poids politique. Comment l'évaluer, Sylvie-Pierre Brossolette, membre du collège du CSA?
On regarde combien pèse, entre guillemets, un candidat en fonction du nombre de partis ou d'élus qui le soutiennent, de ses propres élections passées, de ses sondages, de l'animation de sa campagne, de sa présence sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que les chaînes arrivent à une fourchette de temps de parole et d'antenne qui leur paraissent justifiées.
Dans cette nouvelle période d'équité renforcée, télé et radio doivent en plus assurer aux candidats une exposition comparable, pas à l'heure près. La journée est découpée en 4 périodes, matin, journée, soir et nuit.
Parce que c'est vrai que ça pourrait être très injuste de mettre toujours un candidat au JT de 20h et un autre la nuit à 4h du matin pour équilibrer.
Autre nouveauté qui fait que le calcul de cette équité vire au casse-tête pour les rédactions, la prise en compte dans les déclarations au CSA du temps d'antenne par candidat, pas juste les moments où celui-ci prend la parole, mais les moments où on parle de lui, une revue de presse, un sondage, un micro-trottoir.
Cette exposition en termes de commentaires qui peut faire quand même beaucoup de publicité à un candidat est décompté. C'est un élément de justice.
Les commentaires explicitement défavorables, en revanche, ne sont pas comptabilisés.
Et en guise de tour de chauffe, hier, Benoît Hamon a fait le plein. Son grand meeting à Bercy a réuni 20 000 supporters chauffés à blanc. Tout commence aujourd'hui à lancer le socialiste, dont la campagne est pour le moment très discrète. Il a défendu une France ouverte, généreuse, solidaire et innovante. Et comme un hommage à François Hollande du Bourget en 2012, le socialiste a dénoncé le parti de l'argent qui, je cite, a trop de candidats dans cette présidentielle, visant Emmanuel Macron, François Fillon et Marine Le Pen. François Fillon, lui, change de slogan. Plombé par les affaires, les soupçons d'emploi fictif de sa femme et de ses enfants, il a choisi une volonté pour la France. La phrase remplace le courage de la vérité, visiblement un peu trop lourd à porter.
8h passées de 6 minutes les matins de France Culture, la suite du journal d'Amélie Perrier. Après l'attaque de la patrouille de militaires à l'aéroport d'Orly samedi matin, le profil de l'assaillant pose de nombreuses questions.
Le profil et les motivations de l'homme âgé de 39 ans et tué par l'un des militaires de l'opération Sentinelle. On a appris hier soir qu'il était sous l'emprise de l'alcool, de la cocaïne et du cannabis. Conclusion des analyses effectuées lors de l'autopsie. Les enquêteurs avaient également retrouvé quelques grammes de cocaïne sur lui avec un Coran. L'homme connu pour grand banditisme, pas pour radicalisation, s'est dit prêt à mourir pour Allah. Alors, voyou ou djihadiste, difficile de le dire aujourd'hui, Charlotte Piret.
On le sait désormais, Zine Belbelkacem est cet homme qui, à 22 ans, déjà 3 fois condamné, se retrouve devant les assises du Val-de-Marne. Son truc, c'est alors les braquages, 4 ans, 6 mois, cagoule sur la tête, arme factice à la main. Les années suivantes ne sont guère plus glorieuses, vol, trafic de stupéfiants et incarcération se succèdent. C'est d'ailleurs probablement en prison, en 2011 ou 2012, qu'il se rapproche de l'islamisme radical. Mais la perquisition à son domicile dans la foulée des attentats du 13 novembre ne donne absolument rien, rien qui prouve qu'il ait lui-même adhéré à cette idéologie. Alors quelles sont les intentions de Zied Ben Belkacem lorsqu'il pénètre dans l'aéroport d'Orly? A-t-il pensé son projet, emmené son bidon d'essence, son briquet, son pistolet à grenaille à dessein? Visait-il déjà l'aéroport lorsqu'il a fait l'objet d'un contrôle de police 1h30 plus tôt? Ou est-ce la dernière étape de la fuite en avant d'un voyou qui n'a pas dormi ou à peine, peut-être sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue, un homme qui a fait une bêtise, comme il le confie à ses proches, et qui, juste avant d'être abattu, lançait « Je suis là pour mourir par Allah, de toute façon, il va y avoir des morts ».
Alors pour l'attaque d'Orly, les motivations restent floues, mais ce qui est sûr, c'est que la France reste sous la menace terroriste. Les services s'inquiètent notamment d'une cyberattaque. Le ministère de la Défense organise justement à partir d'aujourd'hui un exercice à grande échelle, le DEFNET. 10 jours de mise à l'épreuve des systèmes sur 11 sites en France. 155 spécialistes militaires de la gestion de cybercrise réquisitionnés et 240 étudiants également associés, car l'opération vise aussi à former les experts de demain, Maïwenn Bordron.
L'école d'informatique InTech à Paris fait partie des 12 établissements d'enseignement supérieur qui prennent part à l'exercice. Éric Lalitte, le directeur, y voit une opportunité pour ses étudiants car ils s'entraînent en conditions réelles.
On va simuler des cyberattaques qui vont être menées sur une entreprise et les étudiants vont avoir comme objectif d'identifier les attaques, d'identifier les failles et de proposer des correctifs, voire de les mettre en place pour à la fin de la journée offrir un réseau sécurisé à l'entreprise virtuelle.
Lors de l'exercice, des membres du ministère de la Défense seront présents sur le site des écoles pour les aider, mais aussi pour repérer les étudiants afin de former la réserve de cyberdéfense de l'armée. Le général Serge Maurice est officier général de la cybersécurité de l'armée de terre. Il est à la tête de l'école des transmissions implantée près de Rennes qui participe également à l'exercice. Et selon lui, c'est aussi l'occasion de partager des savoir-faire.
On prépare les gens à travailler dans ce domaine qui est un domaine presque régalien et pour lequel nous avons de plus en plus besoin de grands experts. C'est une réalité. Notre monde est de plus en plus numérisé. Donc, à partir du moment où on le numérise, c'est-à-dire qu'on l'informatise, il y a de plus en plus de risques liés à l'informatisation. Il faut savoir se protéger de notre propre technologie par des personnels qui sont capables à la fois de nous défendre, mais également de réagir ensuite si jamais il y avait eu une attaque.
Plus d'une centaine de personnes font déjà partie de la réserve citoyenne de cyberdéfense, des forces mobilisables en cas de cyberattaque de grande ampleur contre la France.
Maïwenn Bordron. Les cyberattaques, elles sont justement aujourd'hui au cœur des auditions devant le Congrès américain des directeurs du FBI et de la NSA. Des positions devant les élus très attendues. Après des semaines de polémiques, de fuites, de démentis, on attend la position officielle des agences de renseignement sur l'ingérence de la Russie pendant la campagne présidentielle et sur les accusations de Donald Trump. Il reproche à son prédécesseur Barack Obama de l'avoir fait espionner. Frédéric Carbone à Washington.
En choisissant de remettre sur le tapis juste avant l'élection le dossier des emails d'Hillary Clinton et de ne pas évoquer à l'inverse l'enquête sur les contacts entre l'équipe Trump et la Russie, le directeur du FBI aura été un acteur essentiel de la présidentielle. Essentiel, mais silencieux. Et c'est pourquoi la parole de James Comey est aussi attendue. Devant le Congrès, il doit ainsi répondre à trois questions cruciales. Quelle a été l'importance du piratage par Moscou de la campagne ? La réponse ne fait aucun doute, elle a été majeure. Y a-t-il eu collusion entre des proches de Donald Trump et des responsables russes ? Aucune preuve, selon un élu républicain qui a eu accès au dossier. C'est moins clair, disent des démocrates qui disposent des mêmes informations. Et puis y a-t-il la moindre trace d'écoute de Donald Trump par l'administration Obama ? Là, les élus des deux bords affirment que rien ne vient étayer les accusations portées par l'actuel président contre son prédécesseur. Si James Comey est aussi clair devant le Congrès, il pourrait peser sur le début de la présidence Trump, comme il avait embarrassé la fin de la campagne Clinton.
En Allemagne aussi, on votera en septembre et là aussi le scrutin est loin d'être joué d'avance. La chancelière Angela Merkel, si populaire il y a quelques mois, sans véritable adversaire, se retrouve aujourd'hui bousculée par la montée en puissance du nouveau patron des sociodémocrates, Martin Schulz. L'ancien président du Parlement européen a réalisé le petit exploit hier d'obtenir 100% des votes des militants pour être élu à la tête du parti du jamais vu dans l'histoire du SPD. Angela Merkel aux prises sur la scène internationale avec la Turquie, toujours plus véhémente. Le président Erdogan, furieux depuis le refoulement de plusieurs de ses ministres aux Pays-Bas et en Allemagne, venu faire campagne pour son référendum auprès de la diaspora. Le président Erdogan, donc, a accusé la chancelière allemande d'avoir recours à des pratiques nazies. Derrière l'agressivité de Recep Tayyip Erdogan, une stratégie électorale en vue de ce référendum du 16 avril qui doit lui attribuer de plus larges pouvoirs. Pour Berlin, le pouvoir turc a franchi une limite et l'on évoque dans l'entourage d'Angela Merkel, la possibilité de suspendre les subventions européennes à Ankara. L'Europe comme un Eldorado pour des milliers de migrants. Environ 3000 candidats à l'exil ont été secourus hier en Méditerranée, au large de la Libye. 22 opérations de secours ont été lancées dans la journée. Une affluence due certainement à une fenêtre météo favorable pour prendre la mer. Eux aussi veulent fuir aujourd'hui les combats à Mossoul, en Irak. Les forces irakiennes, depuis un mois, tentent de chasser les djihadistes de Daesh, de la grande ville du nord du pays. La partie est a déjà été reprise, reste la partie ouest, où 700 000 habitants donc seraient encore pris au piège selon les Nations Unies. Ceux qui tentent de partir prennent tous les risques et quand ils réussissent, ils sont conduits par l'armée irakienne au camp d'Amam al-Halil, où les ONG et les autorités sont débordées. C'est le reportage d'Oriane Verdi.
Devant le camp d'Amam al-Halil, sur un terrain vague couvert d'ordures, hommes, femmes et enfants sont attroupés autour de plusieurs pick-up. Des hommes des villages voisins sont venus distribuer de la nourriture aux dizaines de mains tendues. Zara sort de la cohue, les mains vides, désespérée.
Si tu ne te bats pas, tu n'auras pas de nourriture. C'est de la boxe. Et moi, je suis enceinte. Chez nous, sous les bombardements, c'était mieux qu'être ici. On dort tous dans un immense chapiteau. On n'a même pas de natte pour dormir dessus. On nous dit qu'il n'y a plus de place et qu'il faut attendre que d'autres camps soient finis d'être construits. Mais nous, on a tout laissé derrière nous. On n'a rien. Et encore, ce que vous voyez là, ce n'est rien. La nuit, c'est l'enfer.
Non loin de là, Nicolas Andrade tente de parer au plus pressé. Lui et son organisation humanitaire, Norwegian Refugee Council, ont repris la direction du camp il y a quelques jours. La tâche est immense.
Actuellement, à Hammam al-Halil, on est dans l'urgence, dans les premiers jours. Donc, on a eu surtout un afflux massif de déplacés, plusieurs milliers de déplacés qui sont arrivés chaque jour. Et normalement, avant 24 heures, ils sont censés repartir dans des bus vers des camps où il y a encore de la place. Et la plupart des autres camps aussi sont pleins. On essaie de se coordonner avec les militaires qui gèrent le transport vers les autres camps. Mais on a ce déséquilibre entre les arrivées et les départs qui fait qu'on a des gens qui restent coincés ici.
Parmi cette foule, certaines familles pourraient pourtant retourner chez elles sans difficulté apparente. Ahmad, par exemple, est originaire de Domiz, un village repris de l'organisation État islamique par les combattants kurdes il y a plus de 2 ans.
Quand les affrontements entre Daesh et les Peshmerga ont commencé, nous n'avons pu fuir qu'en direction de Mossoul. Alors maintenant, les Kurdes pensent qu'on a collaboré avec Daesh. Mais on n'est pas des guerriers, on ne fait que fuir les combats. Aujourd'hui, les autorités kurdes disent qu'il faut attendre la libération complète de Mossoul pour qu'on puisse rentrer chez nous.
Derrière la lutte contre l'organisation État islamique se joue également un rapport de force entre les différentes entités militaires et politiques d'Irak. Un jeu dangereux pour les communautés habitant la région.
Voilà le reportage d'Oriane Verdi à Mossoul en Irak. On termine par le temps de ce lundi en France. Des nuages un peu partout. Près de la Méditerranée, on sera quand même épargné. Les minimales affichent ce matin entre 5 et 10 degrés. Cet après-midi, on attend 13 degrés à Châteauroux, 14 degrés à Hérouville-Saint-Clair, 14 degrés à Aubervilliers, 21 à Grenoble et 21 aussi pour Montpellier.